Christiane Campagna, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Ça vous fait pas ben loin, de toute façon?
Non, même si mon bureau est un petit peu plus loin qu'avant, mais c'est pas un trop grand détour.
Christiane, je pense qu'on va se tutoyer parce que, ben, on se connaît bien, on travaille ensemble. Les gens à la maison le savent. Ben, vous êtes la recherchiste, c'est bon pour la santé. Puis aussi chroniqueuse, une fois par mois maintenant, pour ce segment Histoire, grand nom de la médecine et de la science. Et on voulait commencer aujourd'hui pour ce premier segment sur peut-être avec la base, là, celui que l'on appelle le père de la médecine, Hippocrate, et non pas Hypocrite. Là, des fois, on fait des petites blagues avec ça. On sait peu de choses sur l'homme, on sait plus de choses sur le scientifique, sur le médecin, mais ce que l'on sait, en tout cas, c'est qu'il a laissé un héritage Hippocrate.
Un héritage qui a fait école pendant très, très, très longtemps pour des bonnes raisons et parfois des mauvaises. Mm-hmm. En fait, des bonnes et des mauvaises conséquences, plutôt. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. Hippocrate de Kos, les Grecs, on les appelle toujours du lieu de leur naissance. C'est un médecin grec qui né sur l'île de Kos vers moins 460, mort vers moins 370 à Larissa.
Ben, ça fait un petit bout.
Ça fait un moment. Puis ses œuvres sont surtout connues par d'autres écrits, entre autres les écrits d'Aristote, les écrits de Galien. Mm-hmm. Souvent, on parle du corpus Hippocratium, qui était tout un bloc d'écrits qu'on lui attribuait parfois, mais de plus en plus, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de ça qui a été écrit par lui, mais plutôt par des gens qui ont poursuivi ses enseignements.
Oui, parce qu'il était et médecin, mais aussi professeur et extrêmement vénéré, extrêmement admiré.
Oui, c'est ça. C'est le principe. Là. On le sait, avec les grands philosophes, ça fonctionne comme ça. Il y a plein de gens... Socrate n'a pas écrit, mais c'est Platon qui a écrit ses enseignements. C'est un peu le même principe. En fait, ses apports les plus importants, c'est le rejet de la magie. Oui. On considérait les maladies comme une punition de Dieu. On invoquait de la magie pour les guérir. On va le faire longtemps après aussi. Par contre, là, ça n'a pas été une victoire totale pour toute l'histoire de l'humanité sur le coup. Mais quand même, il sépare la religion de la discipline de la médecine. Il parle plutôt de facteurs environnementaux, d'alimentation, d'habitudes de vie. Dans ce sens-là, il est proche de nous. On va voir après que ça se corse peut-être plus loin pour des raisons de méconnaissance du vrai fonctionnement du corps humain.
Il a été un précurseur de la diététique.
Oui.
Ça, je pense que c'est quelque chose peut-être que les médecins d'aujourd'hui ont mis plus de côté, mais quand
ça
même, il a laissé ses marques pour ça. Ou peut-être il se distingue un petit peu de la médecine moderne, c'est que pour lui, le diagnostic n'était pas tant important. C'était vraiment plus le traitement. C'était plus un diagnostic large, là, mettons.
Oui, c'est aussi une question des connaissances de l'époque, mais quand même, c'était la recherche des causes des maladies après l'établissement d'un diagnostic qui est fondé sur un ensemble de signes cliniques. Mais là, Hippocrate est le père un peu de la théorie des humeurs. Ça, c'est une théorie là, qui va être utilisée en médecine jusqu'à la fin du 18e siècle. C'est qu'on attribue des humeurs, c'est comme, sont attribués à des fluides là, qui circulent dans chacun des individus, là, la bile noire, la bile jaune, le phlegme, le sang. Et dans les théories d'Hippocrate et de ses suivants, c'est que quand il y a un déséquilibre de ces humeurs-là dans le corps, ben c'est ça qui cause la maladie. Puis là, il y a de ces substances-là qui doivent être évacuées. Parfois, ça se fait naturellement. Le malade devient malade, et le malade va se mettre à tousser, va évacuer ça. Mais parfois, ils vont aller jusqu'à le provoquer, donc par des saignées, des purgatifs, des choses comme ça. Fait que dans ce sens-là, il est peut-être aussi un petit peu le père de tout. Continue d'utiliser ces théories-là. L'idée qu'il y a qui se promène dans notre corps et qu'il faut l'évacuer pour se sentir mieux, bien peut-être qu'on doit ça un petit peu aussi à Hippocrate et toutes ces méthodes qu'on utilisera pendant très longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu Le malade imaginaire hier.
Je l'ai lu.
Tous les traitements qu'on lui inflige, là, des saignées. Il y a certains médecins qui avaient surévalué la quantité de sang qu'il y avait dans le corps, alors ils en enlevaient beaucoup trop.
La recherche du pur, à quelque part. Là.
Oui, et de cet équilibre-là des humeurs qui était aussi, selon Hippocrate, influencé par les saisons, par l'alimentation.
Oui. Et par les éléments, je le disais, air, feu, terre,
oui, ça aussi,
eau.
C'était relié à ça.
Et il croyait à l'astrologie aussi, ce Hippocrate-là.
Oui, malgré le fait qu'il disait que la maladie n'est pas causée par Dieu, il y avait ça aussi. C'est resté, quand on parle d'humeur, aujourd'hui, on parle de personnalité et on continue d'utiliser les expressions « être phlegmatique », colérique, sanguin ou mélancolique. Mais à l'époque, c'était type de santé, là, des types qui étaient plus portés d'aller vers une humeur que vers l'autre. C'est par là qu'allaient les déséquilibres. Mm-hmm. Et c'est resté dans le langage général.
L'un des héritages, je pense, qui est peut-être le plus marquant, en tout cas du moins le grand public connaît bien le serment qui est émis par les jeunes médecins encore dans les écoles ici en Occident. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Pourquoi on le fait ici puis pas partout dans le monde?
Ça, je ne le sais pas, mais c'est vraiment considéré, là, autant j'ai lu des textes sur la France, un peu partout, c'est comme un rite de passage. C'est là qu'on cesse d'être un étudiant en médecine pour devenir un médecin. C'est quand on prête serment. Et on continue de le surnommer le serment d'Hippocrate, bien que si on compare le vrai serment d'Hippocrate à, par exemple, celui que font les médecins, les professionnels du Collège des médecins au Québec aujourd'hui, il n'y a plus rien. D'ailleurs, il y a tout un article de blog d'Alain Vadeboncœur qui défait le... Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup argumenté que le projet de loi des soins de fin de vie allait à l'encontre du serment d'Hippocrate.
Oui,
si on
vrai.
Lit l'original, peut-être un peu, mais là, c'est parce que ça a évolué, tout ça. Depuis, il y a tout un aspect du serment original qui concerne l'apprentissage, parce qu'on apprenait avec les maîtres, alors une fidélité à ses maîtres, tout ça. Il y en a qui sont reliés à la morale de l'époque aussi, ne pas donner de médicaments abortifs ou des choses comme ça. Et aussi, des choses qui concernent comme la corruption. Mais j'ai l'impression que le serment d'Hippocrate essayait d'englober tout ce qui pouvait toucher la profession à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un serment. Et dans le serment québécois, on fait une mention au code de déontologie, comme si on savait aujourd'hui que ce serment-là, qui prend quelques minutes à dire, ne peut pas englober toutes les règles qui vont encadrer la pratique des médecins.
C'est un parmi tant d'autres. Déontologie, confidentialité aussi, je pense beaucoup, don de soi qui revient.
C'était dans l'original. Je ne le vois pas dans le code actuel. Il n'en fait pas partie.
Et c'est vraiment... celui-là qui serait contre les soins en fin de vie, là, finalement.
Oui, c'est ça. Oui. C'est vraiment, j'exercerai la médecine selon les règles de la science et de l'art. Je maintiendrai ma compétence. C'est beaucoup dans ces choses-là. C'est peut-être plus pour protéger de certaines sciences alternatives, peut-être, mm-hmm. ou de choses comme ça. Et de mettre l'intérêt du patient avant le sien. Ouais. De ne pas expérimenter sur les patients. Il y a des notions comme ça qui ont été ajoutées particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale dans les différents serments, parce qu'on avait beaucoup fait d'expériences particulièrement dans les camps.
Et je lisais, ça c'est celui qui, c'est dans le code original, là, vous irez chez, dans les foyers, dans les maisons, vous respecterez l'intimité des gens qui y habitent. Ben, ça, on voit ça de moins en moins. Quoi qu'il y en a encore des médecins qui se déplacent dans les résidences et tout, mais un petit peu moins, c'est moins la norme.
Ça a été remplacé par les clauses de confidentialité.
Voilà, Christiane Campagna, ça a été un plaisir. On se retrouve dans un mois pour parler d'invention qui a marqué l'histoire de la médecine et de la science. Merci.
Je vous en prie.